Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On le connaît surtout pour ses éléphants avec lesquels il a traversé les Alpes pour marcher sur Rome, mais le grand général carthaginois maîtrise aussi l'art de la guerre et celui plus surprenant, du déguisement. Stéphane Bern nous raconte Hannibal, le roi de la moumoute.
Oui, alors Mathieu, il ne faut pas confondre éléphant et moumoute, mammouth, je veux dire. Plus sérieusement,
ah oui, ça c'est
notre
ah, là, on est bien parti, là.
Héros du jour, le grand ennemi de Rome, Hannibal Barca, aurait porté une perruque d'après l'historien grec Polybe, l'un des plus célèbres de son époque, mais dans un contexte bien précis qu'il nous faut restituer. Hannibal Barca, son nom incarne toute la puissance et la gloire de Carthage, mais aussi sa terrible désillusion. Il aurait pu effacer Rome de la carte, mais c'est Carthage qui va être définitivement rasée. Quand Hannibal voit le jour en moins de 147 avant Jésus-Christ, Rome et Carthage, les deux principales puissances du monde antique, se livrent bataille lors de la première guerre punique. Du nord de l'Afrique à la Sicile, en passant par la Sardaigne et l'Espagne, Carthage étend sa puissance au fil des siècles, sous l'œil méfiant de Rome qui se voit disputer la domination de la Méditerranée. Lors de la première guerre, dont le théâtre est la Sicile, Hamilcar Barca est à la tête des armées carthaginoises. C'est à ce père qu'Hannibal doit son génie militaire. Bercé par les récits des campagnes d'Alexandre le Grand et les manuels sur l'art des batailles, Hannibal est surtout élevé dans la haine des Romains. Alors qu'il n'a que 9 ans, son père lui fait prêter un serment, celui de toujours combattre Rome. À la mort d'Hamilcar, puis de son successeur, Hasdrubal, Hannibal prend alors la tête des armées puniques. Il a 26 ans et ouvre les hostilités en faisant le siège de Sagonte, allié de Rome en Espagne. La deuxième guerre punique est lancée. Hannibal a une idée en tête, vaincre l'ennemi sur son propre terrain. Il entreprend alors de traverser l'Espagne et la Gaule pour marcher sur Rome. En traversant l'Èbre, il viole un traité de paix avec Rome et alors, fort d'un régiment de 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers et 40 éléphants de guerre dressés à l'attaque, Hannibal est prêt à tout. Pour se rendre en Italie, il emprunte une route légendaire qui longe la Méditerranée et aurait été ouverte par Hercule, la voie héracléenne considérée comme la plus dangereuse de toutes. La traversée la plus périlleuse, c'est bien sûr celle des Alpes. Vous escaladez en ce moment les remparts de l'Italie, que dis-je, les murs même de Rome, dit Hannibal à ses troupes pour les motiver. Et de la motivation il en faut pour affronter le climat alpin, ces tempêtes de neige et rafales de vent qui causent de gros éboulements de pierres, sans compter les embuscades des Allobroges, ces peuples qui vivent dans les montagnes et défendent leur liberté. Descendre les Alpes est encore plus pénible que les gravir. Le versant italien est un véritable enfer blanc. Les passages sont si étroits, si pentus, qu'il est difficile de ne pas tomber dans le vide. Les chutes mortelles se multiplient. La traversée dure 15 jours. Et ce sont 15 000 hommes qui perdent la vie. Bizarrement, les éléphants tiennent le coup. Ils seront décimés dans les marais toscans. Les survivants ibères, gaulois, numides et africains sont épuisés. Eux qui n'avaient jamais vu la neige. Il faut bien comprendre que l'armée d'Hannibal est multiethnique, ce qui permet de profiter des qualités de chaque peuple. Mais pour ce qui est de la confiance, eh bien, elle ne règne pas toujours. Alors qu'il sécurise sa position dans le nord de l'Italie avec les victoires du Tessin et de la Trébie, Hannibal prend ses quartiers d'hiver à Bologne. Polybe raconte alors « Ce fut aussi dans ce même quartier d'hiver qu'il s'avisa d'un stratagème vraiment carthaginois. Il était environné de peuples légers et inconstants et la liaison qu'il avait contractée avec eux était encore toute récente. Il avait à craindre que, changeant à son égard de disposition, ils ne lui dressassent des pièges et n'attentassent à sa vie. » Pour la mettre en sûreté, il fit faire des perruques et des habits pour tous les âges. Il prenait tantôt l'un, tantôt l'autre, et se déguisait si souvent que non seulement ceux qui ne le voyaient qu'en passant, mais ses amis même, avaient peine à le reconnaître. Le fin tacticien est aussi habile dans l'art du déguisement. Après une nouvelle victoire au lac Trasimène, vient la plus célèbre, la bataille de Cannes, le 2 août 216 avant Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là, dans la ville du festival, mais à Cannes, cette petite contrée du sud de l'Italie, considérée comme le garde-manger de la République romaine. Une place à prendre, donc. Les consuls romains, Polémile et Varron sont confiants. Rome est en supériorité numérique, mais Hannibal élabore une stratégie ingénieuse. Au centre, il place les mercenaires espagnols et celtes, aux ailes, ses meilleurs soldats, les Africains, et au-delà des ailes, les cavaliers numides. Quand les mercenaires avancent, les Romains les enfoncent aussitôt, et c'est alors qu'Africains et numides prennent en étau les Romains. Hannibal a le vent en poupe. Ce n'est pas le cas des Romains qui se prennent de plein fouet le Sirocco, ce vent du Sahara qui les aveugle complètement. À la fin de la journée, 45 000 cadavres romains jonchent le champ de bataille. C'est l'une des plus meurtrières de l'histoire. Vite, il est temps de marcher sur Rome. Ses généraux le pressent, comme son chef de cavalerie Maharbal, avec sa célèbre formule « Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire ». Effectivement, Hannibal n'en fait rien. Il ne veut pas prendre Rome. Et en plus, la poliorcétique, l'art du siège, n'est pas son fort. Ce qu'il veut, c'est rallier les cités italiennes à Carthage et surtout que Rome demande la paix. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à Rome, c'est le branle-bas de combat. Le nouveau dictateur Junius Pera reconstitue 4 légions et Rome arme pour la première fois ses esclaves. L'effectif de l'armée passe de 40 000 à 125 000 hommes, soit 2 fois plus que les armées d'Hannibal. La défaite de Cannes a attisé la haine des Romains, plus que jamais prêts à en découdre. Fier de cette victoire, Hannibal se dirige vers la Campanie et libère les peuples de la tutelle romaine. Ses troupes, fatiguées, ont bien mérité de se reposer. Rien de mieux qu'à Capoue, lieu de tous les excès, plaisirs et fantasmes. Hannibal séduit les habitants de la cité en affirmant qu'elle sera la capitale de l'Italie. Acclamés, les Puniques sont bichonnés. L'enfer alpin semble loin. Pendant qu'Hannibal fait du tourisme dans la ville, ses soldats profitent des délices de Capoue. Montagne de nourriture, vin qui coule à flot et bonne compagnie qui tiennent chaud. Pendant 13 ans, Hannibal et ses troupes s'enlisent en Italie dans une guerre d'usure contre Rome. Ses frères, Magon et Hasdrubal, sont vaincus en Espagne. Il n'obtient que quelques renforts de la part de Carthage car il n'a pas l'aval du Sénat. Plus que la guerre de Carthage, la deuxième guerre punique est la guerre d'Hannibal. Scipion, un général romain de 24 ans, fait son apparition. Il reconquiert la péninsule ibérique et porte la guerre sur le sol de Carthage. Les Numides se rallient à sa cause. Hannibal l'a compris, il est temps de rentrer. Après 34 ans d'absence, le voilà de retour en Afrique. Le 18 octobre 202 avant Jésus-Christ, c'est à Zama que se joue l'affrontement décisif. Hannibal et ses hommes ne font plus le poids. Pour parer aux charges des éléphants, Scipion crée des voies de passage entre ses troupes. Criblés de lances, les pachydermes paniquent quand les Romains frappent bruyamment sur leurs boucliers. Ils se retournent contre les Carthaginois, tout comme les mercenaires qui rallient eux aussi l'ennemi. Au final, 22 000 cadavres jonchent le sol, dont 20 000 du côté de Carthage. Victorieux, Scipion prend le surnom de Scipion, l'Africain. Et Hannibal, il prend ses jambes à son cou et retourne à Carthage. Déterminé à poursuivre la lutte contre Rome, il cherche à s'allier au roi d'Asie mineure. Mais quand le roi de Bithynie s'apprête à le livrer à Rome, Hannibal Barca, 64 ans, fait le choix du suicide et boit le poison.
Europe 1, historiquement vôtre.